midi, on en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission d'en jase, il est présentement 13h12. Est-ce qu'il reste des secondes au cadran?
C'est terminé.
Je pense pas, c'est terminé. Le Canada l'emporte 3-2 sur la Finlande avec une remontée. On le rappelle, le Canada qui perdait 2-0. Sam Reinhardt a marqué en avantage numérique son premier du tournoi au milieu de la deuxième période. Avec environ 10 minutes à faire en troisième période, c'est Shea Theodore qui a marqué. Excellente présence sur la patinoire. Du trio des travaillants, on a réuni Sam Bennett, Brad Marchand et Tom Wilson ensemble. Et ça a créé le but de Theodore, son premier du tournoi. Et Nathan MacKinnon a marqué un avantage numérique avec 32 secondes. Là, on mentionne qu'il va rester 3 secondes.
Une seconde, 1,3 secondes. Donc, c'est excessivement minime. Le match n'est pas fini. Mais la victoire semble de plus en plus acquise. J'en ai parlé tantôt. Quel match, puis je tiens à dire, quel match des Canadiens, là, en termes de tirs, 39 tirs contre 17 pour la Finlande. Par contre, tout un match défensif pour la Finlande.
Oui, vraiment.
Faut leur donner. On a fermé le jeu. On a réussi à contenir cette grande attaque canadienne-là. On sait comment qu'on a des bons joueurs offensifs. Mm-hmm. Mais après tout, et c'est officiel maintenant, le Canada s'en tire avec la victoire et s'en va en finale pour la médaille d'or.
Avec cette mise au jeu remportée par Sam Bennett, Bennett Marchand, Wilson qui se sont levés dans les grands moments et qui d'autre que Connor McDavid pour faire la passe à Nathan MacKinnon pour donner la victoire au Canada. Une pénalité qui avait été prise sur Nathan MacKinnon, on l'avait accroché, le bâton l'avait accroché au visage également. On va de ce pas rejoindre notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. Steve, es-tu en feu comme nous avec le Canada qui va jouer pour l'or dimanche matin?
Définitivement, ça fait du bien au moral. Là, puis de temps en temps, là, ça en donnait une de même, une tape dans le dos, là, ça fait du bien. Les femmes l'ont manqué de pas gros hier, mais là, on s'en va au top.
Quel match des filles, hein, Steve, hier, honnêtement, là, de combattre avec les États-Unis coup pour coup comme ça. Je sais que c'est toujours décevant de repartir avec la médaille d'argent, mais nos Canadiennes peuvent être très, 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 très fiers.
Absolument, parce qu'ils ont donné tout l'effort. On le voyait sur le jeu, là, ils se sont pas laissés aller. Puis c'est un concours de circonstances que ça n'a pas fini comme espéré. Puis moi, je suis pas mal certain que l'équipe de masculine va pouvoir mettre le paquet là-dedans. Puis là, ça va être la confrontation des titans. Moi, je l'appelle le même.
Ah, vraiment. Steve, c'est drôle parce que là, on parle des Jeux olympiques. C'est un drôle de hasard. On parle de plein de compétitions. On le rappelle, Valérie Maltais qui a remporté sa troisième médaille des Jeux, une médaille de bronze tout à l'heure aux 1500 mètres. Et là, on va parler de l'ex-athlète olympique canadien, Ryan Whiting, qui avait accès à un puissant logiciel d'espionnage capable d'infecter les téléphones de ses cibles à distance. Parle-moi de ce logiciel-là. C'est un logiciel d'espionnage digne des meilleurs films américains.
Oui, tout à fait. Mais il n'est pas spécifié non plus dans le plumitif, donc dans l'acte d'accusation. C'était simplement dit que c'est un outil de surveillance qui a été installé dans certains téléphones d'opposants, on va dire, entre guillemets, pour les opposants, donc ceux et celles qui travaillaient contre lui. Et c'est vu, c'est pas d'hier que ça existe, ces logiciels-là. Certains, comme un populaire qui est Pegasus du groupe NSO, puis Graphite de Paragon, ce sont des logiciels, eux autres, qui sont faits pour aller s'immiscer dans des appareils, que ce soit Android ou iOS, pour être capable de suivre, écouter, lire l'information qui est véhiculée dans ce téléphone-là. Et ça a été vu à plusieurs reprises à travers le monde contre des ressortissants, des figures politiques en opposition à des régimes. Et ça continue comme ça. Mais qu'est-ce qui me tracasse le plus, c'est que ça a été divulgué qu'il a payé 18 500$. Puis dans les deux premiers logiciels, je vous ai parlé, Paragon, c'est-à-dire Graphite et Pegasus, ça, c'est pas dans cette gamme de prix-là. D'habitude, eux autres, c'était que 2-0 de plus. Fait que je comprends pas lequel des logiciels qu'il peut avoir à ce prix-là.
Mais c'est justement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait pu corrompre certains groupes criminalisés, justement, les menacer ou les payer différemment que le 18 000 pour le logiciel?
Non, mais qu'est-ce que... ça a été déclaré qu'il a suivi la compétition. Donc, en infectant ces pièces d'équipement-là, donc des téléphones cellulaires, il est en mesure de suivre par la géolocalisation où étaient ses adversaires, où étaient les cibles, les victimes potentielles là, qu'il voulait faire. Fait que ça, c'est un... Autant pour les services de police qui utilisent ça dans des techniques d'enquête ici au Canada, ça a déjà été cité que la police de l'Ontario, la GRC, ont eu accès à ces genres d'appareils-là, de logiciels-là dans ces appareils. En 2017, en 2024, juste te donner une idée, là, il y a 57 appareils dans des enquêtes qui ont fait l'objet d'usage de ces logiciels-là, ce qui a mené aussi avec une commission un comité d'études sur justement l'utilisation de ces logiciels-là, et un rapport est sorti en novembre 2022, qui depuis, on n'a pas eu grand-chose qui a bougé, mais dans ces travaux-là, ça a été documenté qu'il y a eu justement déclaration comme quoi que ça existe, des outils comme ça, on fait des enquêtes, et ce qui était dans les recommandations, bien, c'est évidemment que ça soit déclaré pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est. Mais dans le passé, les techniques policières qui utilisent des affaires comme ça sur la ligne du correct, pas correct, bien, ça leur donne une idée dans quoi que ça embarque. Ça leur donne aussi la confiance qu'ils vont prendre des techniques qu'ils vont pouvoir divulguer en cours. Il faut qu'ils divulguent la preuve et comment ils ont eu la preuve. Mais prendre des logiciels comme ça et épier la population, bien, il y a un potentiel de dérape comme n'importe qui peut faire.
Oui, bien, quand c'est des policiers qui le font, j'ai envie de dire, c'est une certaine chose. Mais de voir des personnes comme Ryan Wedding le faire, ça amène la question, est-ce que n'importe qui, mal intentionné, peut donc avoir accès à des logiciels qui permettent d'espionner des téléphones?
C'est
un peu ça que ça nous dit, là.
Ben oui, puis comment est-ce que ça se fait, ces infections-là? Ben premièrement, ça y va par des vecteurs d'accès qui sont faciles pour rejoindre la victime. WhatsApp, iMessage, des logiciels de communication comme ça. Aussi, il y a des techniques qui sont utilisées, qu'on appelle des techniques zéro-clic, qui vont être d'envoyer à la cible, à son numéro de téléphone ou son adresse, une image qui est truquée ou une vidéo avec laquelle elle va s'auto-activer parce qu'il y a une vulnérabilité dans le système d'exploitation de l'appareil et que là, la personne, elle ne saura pas, va juste recevoir la photo ou la vidéo, va juste la regarder, puis bang, le téléphone est compromis. Fait que ça veut dire quoi? C'est que les fabricants ont l'odieux de garder leurs appareils à jour, mais les bandits, eux autres, ont quand même assez fort pour aller chercher les failles, puis... les exploiter de temps en temps. Fait que quand on dit qu'il faut mettre les appareils à jour, ben c'est une mesure avec laquelle ça va réduire ce risque-là. Et une des mesures aussi qui est sortie il y a quelques années par le NSA aux États-Unis pour prévenir ce genre de situation-là, autrement dit qu'on devienne victime de l'exploitation par un tel logiciel, ben c'est d'éteindre son téléphone autant ce qu'on peut. Souvent, ça va être la recommandation de base une fois par semaine. Moi, je le fais souvent, en tout cas. Et c'est pour vraiment minimiser que le code reste en mémoire vive, parce qu'il ne s'installe pas dans le système d'exploitation, il reste en mémoire vive. Et quand on éteint le téléphone, ça efface qu'est-ce qui est dans le contenu de la mémoire. Fait que ça, c'est une bonne pratique pour ceux et celles qui disent ben, comment qu'on peut faire, on peut rien faire. Non, on peut faire quelque chose pour se protéger.
Donc, on peut éteindre le téléphone cellulaire. On parle avec Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité et ex-ancien officier des Forces armées canadiennes. Steve, si les criminels sont capables d'avoir ce logiciel-là très performant pour 18 000 $ est-ce que nos corps de police, là, je vais me concentrer ici au Canada, sont capables justement de retracer ces transactions-là ou de retracer ces intrusions-là faites par les criminels?
Oui et non, parce que c'est comme placer un appel, t'as un point d'initialisation puis t'as un point de terminaison pour que l'appel se fasse entre deux personnes, deux points, mais c'est pas si évident que ça avec des logiciels comme ça, puisque l'anonymisation, elle est aussi mise de l'avant, autrement dit, pour pas que ce soit facile à retracer. À moins qu'ils servent un subpoena pour aller voir chez la compagnie, s'ils peuvent retracer chez la compagnie, ça a été déjà vu dans le passé, mais ça, généralement, ces grands conglomérats, ça protège la clientèle, puis ça sera pas facile d'y avoir accès. Ça, c'est un. Deux, ben, y a peut-être d'autres logiciels qui existent sur le marché qui sont pas tout simplement des inks avec un pignon sur rue en quelque part. Et donc, ça se passe dans les instances criminelles, puis ça devient des logiciels maison qui sont développés. Pour que ça soit des logiciels maison développés, il faut qu'il y ait du monde qui soit bien ferré en la matière. L'argent va attirer le talent, ça c'est clair, et ils peuvent à ce moment-là se créer des outils en ce sens.
Puis, en tant que personne normale, est-ce que ça se pourrait qu'une personne mal intentionnée ou autre utilise cette sorte de logiciel-là sur mon appareil, par exemple? Et si oui, comment que je fais pour tenter de l'éviter?
Ben, comme de fait, on dit que ces logiciels-là sont utilisés vers des gens d'intérêt. tu sais, comme je disais, mettons comme l'exemple avec le journaliste Khashoggi, qu'il a parlé contre le régime saoudien, ben ils l'ont suivi jusqu'au Canada, jusqu'à Lennoxville en Estrie. Puis après ça, ils ont été capables de l'attirer dans un consulat en Turquie. Puis il n'est jamais sorti de là, le bonhomme. Mais ils ont été capables d'avoir aussi accès à Jeff Bezos, son cellulaire, quand même, en infectant son WhatsApp. Et par une vidéo dans WhatsApp, il a contaminé le téléphone parce qu'il voulait lire s'il en savait plus, le gars, parce qu'il était propriétaire du Washington... Il est toujours propriétaire du Washington Post. Il voulait savoir où ce qui était rendu Khashoggi, s'il en savait plus. Fait que c'est comme ça qu'ils vont vous chercher des points d'information. Mais pour le commun des mortels, est-ce qu'un criminel pourrait s'en prendre à vous et moi? La réponse est oui, parce que si on a quelque chose qui les intéresse, c'est là qu'ils peuvent dire, ben on va aller le voir, cette personne-là, tu sais. Puis si c'est un réseau de criminels qui veulent... te dépocher de quoi que ce soit, ben c'est là que ça naît un outil qui est accessible. Encore là, j'insiste, puis je veux pas que le monde parte en peur, c'est une exception qu'ils vont avoir accès à ça, parce que c'est pas disponible, on achète ça au bureau en gros. C'est vraiment des compagnies qui sont quand même de pointe, ils ont une réputation protégée, puis ils vont faire affaire avec quelque chose qui est très payant. Pis ça, je dis, c'est dans les centaines de milliers de dollars acheter une licence d'exploitation pour ces logiciels que je disais tantôt. Mais ça n'excuse pas que quelqu'un peut envoyer... comme là, présentement, il y a une grosse faille de vulnérabilité avec un logiciel de prise de contrôle à distance pour les compagnies qui veulent aider les gens. Ben, si la faille n'est pas colmatée, le logiciel peut être exploité. Ça ne prend pas 100 000 $ pour faire ça, là. Ça prend juste la connaissance. Puis après ça, ça se fait. Fait que c'est pour ça qu'il y a bien des variables qui sont en mouvement présentement qui font en sorte qu'il y a juste une place qu'on peut aller se servir d'un outil pour commettre un méfait. Il y en a plusieurs autour, mais à la base, ça revient à chacun d'entre nous de garder nos appareils à jour, puis d'arrêter de cliquer sur tout ce qui nous est présenté, parce que c'est comme ça souvent que beaucoup de gens sont compromis.
Donc, Steve, en terminant, on éteint nos appareils, on fait les mises à jour et on fait tout simplement pas confiance aux messages qu'on ne connaît pas et on devrait ne pas être espionné par Ryan Wedding ou autre criminel de la sorte.
Ben là, eux autres sont pas mal sur le dallo parce qu'ils se sont fait ramasser et tout. Moi, j'espère en tout cas que dans leur comparution en justice, on va en apprendre davantage sur les techniques qui ont été utilisées, etc. Mais de ce fait, il va y avoir d'autres cas qu'on va voir dans le monde là, qui vont se passer. Parce que quand Edward Snowden a fait son dévoilement des outils du NSA, là, il y a quelques années, il y en avait pas mal. Il y avait un catalogue, justement, des outils gouvernementaux américains, surtout, qui existent et que, pour des fins d'espionnage ou de sécurité nationale, ces outils-là sont à ce niveau-là de gouvernance. Mais il y a de la traçabilité à travers de ça qui fait en sorte qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent pour protéger nos intérêts. Mais en même temps, il est arrivé dans le passé qu'il y a des boîtes de même qui ont fui dans le public. Fait que vous avez raison, donc il faut vraiment voir notre protection initiale, mais il ne faut pas être dupe. Et si on a des choses particulières, j'aime ça dire croustillantes à échanger, ben faites ça en personne, faites pas ça à travers les téléphones s'il n'a pas été mis à jour, s'il n'a pas été surveillé, etc. Vous courez à votre perte en faisant ça de même. Mais tu sais, je vis dans paranoïa de même, les gars. Ben ça, c'est mon...
Mais c'est parfait. C'est pour ça que tu es notre spécialiste en cybersécurité. Steve Waterhouse, ancien officier des Forces armées canadiennes, merci infiniment pour le temps que tu as passé avec nous. On se dit go Canada, go pour cet après-midi. Il y aura une finale en curling. On souhaite que les gars l'emportent au niveau du hockey masculin dimanche matin et au plaisir de se reparler bientôt.
Certainement, bon week-end.
Salut Steve, bon week-end. On le rappelle, le Canada l'a emporté 3-2 sur la Finlande, un but à 32 secondes de la fin du match de Nathan MacKinnon en avantage numérique sur une superbe passe de Connor McDavid. Macklin Celebrini, le jeune de 19 ans, qui est également complice sur ce filet. On s'en va en finale, mon Mathias.
Hey, t'imagines-tu l'ambiance dans les écoles en Ontario quand ce but-là s'est scoré?
Oui, c'est bien trop vrai. Ah, que j'aime Doug Ford. Mais il a fait vivre ça à tous les enfants dans les écoles en Ontario. C'est extraordinaire. Ici, à Québec, en passant, là, pas mal, tous les centres de services scolaires étaient en pédago. Fait que nos enfants l'ont vécu à maison. Moi, d'après moi, les deux miens ont jumpé.
Les plafonds doivent sauter.
Les messages qui sont apparus sur notre groupe familial, c'est tout simplement extraordinaire.
Puis quand on parlait de ça hier, justement, puis j'en parlais, c'est bien beau l'école, mais les souvenirs qu'on crée à ces moments-là. Puis, Jeff, on va s'entendre, on va s'en souvenir qu'on était en onde quand Nathan MacKinnon a scoré ce but-là pour nous amener en finale des Jeux olympiques. C'est des grands moments qu'on vit présentement.
On fait-tu de quoi, Mathias?
Vas-y.
On va faire ça, là. Faudrait, parce que tu sais, c'est super bon, là, le rock and chill de 7 à 10, les samedis
oui,
et dimanches
excellent.
Matin. T'sais, j'adore ça, c'est mon émission préférée. Je prends un petit café, j'écoute la belle voix d'Audrey, comme j'ai toujours dit. On dirait que ma blonde est plus belle le matin avec un café puis le rock and chill, même si c'est toujours belle, Val. Mais là, dimanche matin, là, je pourrais pas écouter le rock and chill.
Une petite ambiance derrière le match du Canada?
Ouais, c'est vrai. Le rock and chill va faire gagner le Canada. On donne ça comme mission à Audrey Pinchot?
On donne ça comme mission.
On donne ça à Audrey Pinchot. Avec le rock and chill, Audrey Pinchot, t'es obligé de faire gagner le Canada. Sinon.
C'est beaucoup de pression sur les épaules d'Audrey qu'on donne présentement.
Là. Ouais. Sinon, moi et Mathias, on va penser à quelque chose pour toi. Faut que le Canada gagne en même temps que le rock and chill. Mais vous savez, la programmation de week-end, c'est pas juste le rock and chill. À soir, 18h. Imagine-toi, là, le Canada vient de gagner un gros match. On est en feu total ici au Québec. Puis à 18h, c'est Dan Demen qui s'installe. Il met la meilleure musique rock. Il shoot ça, les bons vieux classiques. Puis là, t'es rendu à ta sixième bière parce que t'as pas travaillé de la journée puis t'as écouté le Canada puis ça part. C'est écœurant sur nos ondes. Dan avec son garage à 18h. Samedi, Dan Demen revient de 10 à 15 avec le boulevard du rock. Colosse va être là dimanche et c'est Matt Marcotte avec son rack à mat qui termine vos fins de semaine, les samedis et dimanches, à compter de 15h. Ne manquez pas notre programmation de fin de semaine, notre programmation musicale. C'est la meilleure programmation musicale de la business. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a autant la nouveauté de Shinedown qui s'en vient au centre Vidéotron que le bon vieux Classic Rock de Van Halen. Circulation, Mathias?
Yes, juste vous dire, présentement, il y a deux ralentissements principaux qui se créent. Le premier, c'est Capitale Direction Est entre Pierre Bertrand et Robert Bourassa. Deuxième, le petit classique du vendredi après-midi. Laurentienne en direction sud en arrivant sur Capitale. Si vous avez des informations, 88-971-1021 par texto.
Dans un instant, on va parler avec notre chroniqueur sportif en direct du 99.5 Montréal, Alex Laramé. Évidemment, on revient sur cette victoire dramatique du Canada en hockey féminin. Cette défaite fait crève-cœur du Canada, j'ai dit en hockey féminin. Victoire dramatique en hockey masculin, pardonnez-moi, 3-2, but de Nathan MacKinnon. Défaite crève-cœur du Canada en hockey féminin hier en prolongation face aux États-Unis en finale. Il y a les gars qui vont se retrouver en finale au curling cet après-midi. Valérie Maltec a gagné sa troisième médaille, une médaille de bronze aux 1500 mètres en patinage de vitesse longue piste. Et il y a les filles en curling qui vont jouer pour le bronze également. Puis on regarde ce qu'il y a à surveiller ce week-end aux Jeux olympiques, en ce dernier week-end d'Olympique. On fait tout ça dans un instant avec Alex Laramé sur les ondes de Boulevard 101 à l'émission On en jase. On en jase.